Les parleuses.
Littérature, etc. présente Les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire.
Béatrix a un rendez-vous, mais une de ses passions, c'est de dormir. Donc forcément, et ça crée un problème.
Là, elle essaie de s'habiller, mais il pleut, donc tout est très compliqué. Elle a des soutiens-gorge trop petits ou trop grands, mais heureusement, elle a des slips triangles, je crois.
C'est une personne assez originale.
Qui a l'air un petit peu perchée, visiblement.
Elle dit d'elle-même qu'elle est fétichiste du sommeil.
Elle préfère la fréquentation de son coiffeur et des gens qui y sont.
Effectivement, elle a des relations particulières avec un dénommé Eric.
Eric ne sert pas à grand chose, d'après ce que j'ai compris.
Elle préférait qu'on lui annonce qu'elle est atteinte d'une grave maladie plutôt que de ne pas pouvoir aller chez René. C'est son kiff dans la vie.
Le matrimoine littéraire.
Bonjour. Nous sommes le samedi 14 mai 2022 à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement. C'est un immense bâtiment qui était auparavant une prison et auparavant un hôpital. Merci aux bibliothécaires pour l'invitation à cette 29e séance des parleuses et dédiée à l'autrice autrichienne Ingeborg Bachmann. Nous venons de traverser un atelier d'écriture et un mini-atelier de lecture par arpentage. Le tout a été imaginé avec l'autrice Lucie Taïeb, que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés. Lucie Taïeb, tu es écrivaine et traductrice. Tu as étudié l'allemand à Paris, Vienne et Berlin, obtenu l'agrégation en 2002, puis soutenu en 2008 une thèse de littérature comparée portant sur la transmission poétique de la mémoire d'événements de violence historique après 1945 en France, en Argentine et en Allemagne. Depuis ton premier recueil de poésie paru aux Inaperçus en 2013, tu poursuis ta recherche d'une écriture centrée sur l'unité du poème ou du fragment, souvent polyphonique, à travers des genres variés, essais, romans, poésie, et par l'expérimentation au sein de ces genres, de forme singulière, en possible collaboration avec la musique improvisée, la gravure ou encore la photographie. Ton deuxième roman, Les Échappées, a eu le prix Wepler en 2019. Et tes recherches portent depuis plusieurs années sur la représentation et la place des déchets. Elles ont notamment donné lieu à plusieurs publications, dont Fresh Kills, publié dans la très belle maison d'édition La Contre-Allée, livre que j'ai par ailleurs adoré. Je te laisse maintenant, avec joie et curiosité, Lucie, la parole pour nous parler de ton amour pour Ingeborg Bachmann, à qui tu as adressé cette séance.
Merci. Alors, c'est une lettre à Ingeborg en 19 fragments et 2 apartés. Chère Ingeborg, je reviens vers vous. Le temps passant, j'approche l'âge où vous avez fini votre vie, 47 ans, à Rome. Vous êtes morte en 1973, 4 ans avant que je ne naisse, et j'ai 44 ans désormais. De vous, quelques phrases, quelques poèmes m'auront accompagnée depuis la découverte, et c'est toujours à eux que je reviens, comme si cela suffisait. Comme si, hormis ce que je sais ou crois savoir de vous désormais, tout le reste était clos. Il faudrait revenir pourtant vers tout ce que j'ai laissé de côté, soigneusement éviter de vous les livres que je n'ai pas lus ou feuilletés seulement, puis plus considérés. C'est à cela qu'il faudrait revenir, car tout cela parle, je crois, d'une question qui ne cesse de me poursuivre comme elle vous poursuivait, l'origine du mal. D'où vient la violence? Dans quel foyer, dans quel recoin de nos âmes, de nos maisons, de nos pays, elle a fait son nid et grossi, tumeur muette. Je vous adresse ce texte que j'écris depuis Paris, un beau jour de mai. Je suis dans mon lit, qui est un des lieux de l'écriture. Dehors, un ciel persistant et les cris des enfants dans la rue. Voici des années déjà que je ne suis plus retournée en Autriche, pays que vous avez quitté tôt et par choix, mais dont je ne saurais dire s'il est resté le vôtre. Vous avez commencé par écrire de la poésie, et c'est par votre poésie que j'ai commencé à vous lire. Étrangement, vos romans, vos nouvelles ne m'ont jamais autant marqué que vos poèmes. Et ce n'est pas créer ici de hiérarchie au sein de votre œuvre, mais dire un attachement si grand que je n'ai pas su continuer à lire autre chose de vous que ces poèmes, sinon quelques entretiens, les brèves proses non fictives, ou encore vos discours de remise de prix et certaines de vos leçons de Francfort, où vous aviez été écrivaine invitée pour exposer en une série de conférences votre vision de la littérature. Écrivaine invitée. Cela me rappelle une autre formulation que je dirai en allemand, car c'est en allemand que je l'ai découverte. Freie Schriftstellerin. Littéralement, cela signifie écrivaine libre. L'écrivain, l'écrivaine libre, c'est celui qui n'a pas d'autre activité officielle que celle d'écrire, libérée de toute autre contrainte. Elle a vécu à Rome comme écrivaine libre. Sie hat als freie Schriftstellerin in Rom gelebt. C'est peut-être cette simple phrase dans votre biographie qui a initié, avant même que je ne connaisse votre œuvre, mon désir, ma curiosité, parce que c'était un rêve. J'avais 15 ans, parce que c'était tout ce que je voulais. Je venais de quitter la France pour un bref séjour en Allemagne, vivre ailleurs que chez moi, et comme écrivaine, et libre. 2. Ingeborg Bachmann est née à Klagenfurt en 1926 et elle est morte à Rome en 1970. C'est une écrivaine autrichienne qui accéda très tôt à la reconnaissance, invitée par les membres du groupe 47, club de poètes très sérieux qui se réunissait en Allemagne pour refonder la littérature dans le pays en ruine. Je ne me suis jamais beaucoup intéressée à sa vie, à sa biographie, parce qu'une biographie n'est jamais très intéressante, sinon parce qu'elle peut donner à comprendre d'une œuvre. Mais dans le cas de Bachmann, comme trop souvent, la biographie a, bien plus souvent, occulté l'œuvre. On commence par sa mort et cette fin tragique dans un incendie dont on ne sait s'il était accidentel ou un suicide. Cigarette allumée dans ce lit où elle s'endort sans les éteindre, somnifères, antidépresseurs. Et tout de suite, ce n'est plus une vie d'écriture, mais un fait divers, ou une chronique des cœurs brisés. Noms célèbres à l'appui, grands écrivains qui furent ses amants, et font oublier parfois, en France du moins, qu'elle fut poète, philosophe, prenant part aux débats politiques et aux débats d'idées qui lui étaient contemporains, lectrice assidue de Wittgenstein, puis d'Adorno, de Benjamin, de Scholem, romancière, autrice de fiction radiophonique, de livres et d'opéras, de textes majeurs exposant sa compréhension de la littérature. Je préfère revenir à Klagenfurt et à ce que Bachmann a désigné comme sa douleur trop précoce. Ce jour de 1938 où les nazis entrent dans la ville, juste après l'annexion de l'Autriche par Hitler. La douleur trop précoce, diront plus tard les commentateurs, ce fut d'apprendre que son père instituteur avait rejoint ce parti nazi, qu'il y demeura jusqu'à la fin de la guerre. Dès qu'elle a 18 ans, elle quitte Klagenfurt pour Vienne, où elle commence ses études de philosophie. Elle quitte cette ville, cette province de Styrie, qui est aussi la ville natale d'un autre Autrichien, Robert Musil, et qui se trouve être une région de frontière, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie. L'Italie déjà si proche, dont elle parle déjà la langue, et qu'elle rejoindra quelques années plus tard pour un premier long séjour à Rome, où elle vit donc en écrivaine libre, travaillant aussi pour la radio, à qui elle livre ses reportages romains, libre mais travaillant toujours. Libre, c'est-à-dire sans nulle autre contrainte que celle d'écrire. 3. Savoir que le père fut nazi et le vivre comme un traumatisme. Grandir adolescente puis jeune fille dans le nazisme. Ingeborg aux nattes blondes, que rien ne menace, et partir ensuite rejoindre la capitale, celle qui fut longtemps dite Vienne-la-Rouge, et constater que la fin de la guerre n'a pas mis de terme à la violence. 4. À partez. Ce que j'écris ici, je l'écris de mémoire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me souviens de cette année entière, cette année heureuse, où découvrant le travail de recherche, je passais une bonne partie de mes journées dans la bibliothèque de l'Institut de Lettres de l'Université de Vienne. Je revois les lampes vertes et leur éclat lorsque, bientôt, la nuit tombait et que l'après-midi n'était pas encore achevé. Je me souviens du calme de ces journées. Mon mémoire de maîtrise portait sur les structures frontalières dans votre poésie. Vous étiez né auprès de deux frontières, vous aviez franchi la frontière pour partir vivre en Italie, et vous parliez aussi, avec Ludwig Wittgenstein, des frontières de votre langue. Les frontières de mon monde sont les frontières de ma langue. Je lisais vos poèmes, les uns après les autres, tous les poèmes parus alors et qui tenaient en un seul recueil, et je tentais de les comprendre, et je cherchais à repérer des frontières, des départs, des franchissements. Je ne sais plus combien de fois depuis j'ai lu ou relu ces textes à l'occasion d'un colloque pour mon propre travail d'écriture ou pour la traduction de textes universitaires qui portaient sur votre œuvre. Je me souviens aussi que très tôt, je vous ai traduite, je voulais vous traduire. Aujourd'hui, je suis presque heureuse de ne pas l'avoir fait. Depuis, pour qui s'intéresse en France à votre œuvre, il est possible de lire vos poèmes dans la traduction de Françoise Rétif en édition bilingue. Et il y a aussi ce petit livre, toujours de Françoise Rétif, chez Belin, qui constitue une parfaite introduction à votre travail. Je ne l'ai pas relu pour écrire aujourd'hui et n'exclus pas des inexactitudes, des erreurs. J'espère que vous les pardonnerez. Ce n'est pas que je ne veuille pas être fiable, c'est que pour une fois, je veux seulement me souvenir, quitte à être inexact. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Les frontières de ma langue sont les frontières de mon monde. Cela m'est revenu, sans que j'aie à le chercher. Ce qui m'est revenu aussi étrangement, comme une chanson, lorsque j'ai relu vos poèmes, ce sont les vers suivants. Nuit de fleurs clés prime vert et de trèfles ensorcelés, humidifie-moi les yeux, que mes pas soient plus légers. Cette fleur clé, c'est précisément le nom allemand de Primwehr, Schlüsselblume. J'avais cherché longtemps une traduction qui rende le rythme de vos vers en allemand. Nacht aus Schlüsselblumen und verwunschenem Klee feuchte mir die Füße, dass ich leichter gehe. Les autres traductions, il en reste encore une trace pour certaines dans ma mémoire ou dans quelques revues, mais ces vers-ci, dont je ne savais pas que je m'en souvenais, sont revenus, intacts, et je me rappelle le temps, le long temps passé à les bricoler, et à la fin, j'avais comme une formule magique, rythmée, que je ne me lassais pas de répéter. 5. La guerre n'a pas mis un terme à la violence. La violence fasciste se perpétue au sein de la social-démocratie. Les affaires ont repris. Elles ne se sont jamais interrompues. Le capitalisme ne sort pas abîmé de la guerre. Les grandes entreprises qui ont soutenu le candidat national socialiste, qui n'avait de socialiste que le nom, comme étendard de ralliement pour un peuple humilié. Les grandes entreprises, donc, Opel, Thyssen, acier et charbon, armes et tanks, Volkswagen, se porte comme un charme. Je me rappelle ici le livre d'Éric Vuillard, L'ordre du jour, qui porte sur ces complicités du capital qui soutiennent Hitler lors de son accession au pouvoir. Et je pense à vous, Ingeborg, observatrice lucide, inquiète, qui voit les traces vives de violence et la domination. Vous qui avez grandi dans l'Autriche catholique et conservatrice, conspué et haï par Thomas Bernhard, qui avait grandi dans une famille autrichienne telle que Thomas Bernhard les détestait, car c'est déjà là, dans les relations entre le mari et son épouse, entre le père et ses enfants, et aussi entre la famille et le curé, que se nouent les mécanismes de la soumission, de la domination, de la destruction du plus faible. 6. Je trouve sur Internet ces lignes de la germaniste Christine Le Serre où elle évoque l'admiration sans borne de Thomas Bernhardt pour Ingeborg Bachmann. Je cite. En 1986, dans son roman « Extinction », il avait redonné corps et voix à la poésie d'Ingeborg Bachmann dans la figure de la poétesse Maria, et elle cite Bernhardt. « Dans chaque ligne qu'elle écrit, elle est tout entière, tout vient d'elle. » Bachmann, que l'on cite rarement aux côtés des deux grands Autrichiens, Thomas Bernhardt et Elfried Jelinek, Bachmann, dont les nouvelles, les romans inachevés, le cycle de textes intitulé « Manière de mourir » disent une violence inouïe, perverse, insidieuse, mais avec précision, avec douleur, sans que la langue, chez elle, ne semble jouir de cette énergie de la haine, comme chez Bernhardt et chez Jelinek. Il y a de la violence, mais pas d'énergie de la haine chez Bachmann, qui écrit, me semble-t-il, à la fois en philosophe, en créant des assemblages de relations complexes, et aussi en poète, c'est-à-dire en partageant, en éprouvant par porosité la violence perpétrée et la violence subie. Dans cette constellation, ce n'est pas en Autriche que je trouve la voix la plus proche de Bachmann, mais aux États-Unis, chez Sylvia Plath, dont les poèmes, d'une beauté et d'une grande puissance, continuent de me glacer. 7. La guerre n'est plus déclarée, elle est poursuivie. Ce sont les premiers vers du poème « Tous les jours ». La guerre achevée dans une Autriche qui donc a décidé de tourner la page et de reprendre les affaires en cours, après la parenthèse tragique et malheureuse du nazisme, dans une Autriche en paix, Bachmann, qui est déjà visible, déjà célèbre, déjà une icône de la littérature de langue allemande, l'enfant prodigue, fragile, fascinante, écrit « La guerre n'est pas déclarée, elle est poursuivie. » 8. Et plusieurs de ses poèmes font entendre les dissonances, les écarts indécents entre la poursuite d'une violence, violence de classe, violence économique et sociale, et la voix insouciante de la prospérité retrouvée, du capitalisme triomphant. Associées au sein d'un même poème, ces deux voix entrent en tension, et le poème rejoue ainsi, donne à entendre ce que la coexistence des deux a d'inacceptable. 9. Deuxième aparté. Je ne connaissais pas encore très bien l'allemand, mais je vous lisais en allemand. Lire en langue étrangère, une poésie qui est déjà une langue en soi, implique des parts d'ombre. Longtemps, certains passages me sont restés opaques. Une opacité qui ne se levait que peu à peu lorsque j'en venais à l'étude détaillée de certains textes ou bien lorsque j'essayais de traduire. La traduction de Françoise Rétif n'était pas encore parue et de toute façon, ce n'était pas en français que je voulais vous lire, mais en allemand. Pourtant, dans cette brume, dans ce flou où tout le sens ne m'était pas accessible, j'avais accès peut-être à l'essentiel. Le rythme de vos vers, les structures syntaxiques, les répétitions. Lang ist die Nacht, lang für den Mann, der nicht sterben kann. Longue est la nuit, longue pour l'homme qui ne peut pas mourir. L'essentiel ne fut jamais vraiment de vous comprendre, mais de vous entendre. 10. La guerre se poursuit, la violence est partout, mais l'injection est à l'insouciance, à l'oubli, aussi de ces 8 années, de 38 à 45, durant lesquelles l'Autriche n'existait plus, sinon comme partie intégrante de l'entité désignée par le mot « Reich ». Ainsi, dans le poème « Manœuvre d'automne », il y a ces voix et ces temporalités multiples qui se mêlent, l'appel à l'insouciance, au tourisme de masse, à la découverte d'un sud kitsch, un sud de carte postale, des couchers de soleil qui n'ont pas leur pareil. Il y a aussi le scandale du mépris, de l'indifférence affichée vis-à-vis des oubliés de la prospérité. Il y a enfin, comme une menace trouble, le souvenir interdit de l'histoire récente qui, pourtant, pèse sur l'avenir.
Dans les journaux, Je lis tant de choses sur le froid et ses conséquences, sur les idiots et les morts, les exilés, les assassins et des myriades de blocs de glace. Mais peu pour me plaire. Qu'importe. Devant le mendiant qui se présente à midi, je ferme ma porte, car c'est la paix. Et l'on peut s'éviter ce spectacle, mais pas la mort, sans joie des feuilles sous la pluie. Partons en voyage, allons sous les cyprès, ou bien sous les palmiers, ou dans les orangerais, contempler à prix réduit des couchers de soleil qui n'ont pas leur pareil. Oublions les lettres demeurées sans réponse à l'hier. Le temps fait à merveille. Mais s'il vient mal à propos, marteler notre culpabilité, nous n'y sommes pas. Dans la cave du cœur, sans sommeil, je me trouve à nouveau, sur la balle du dérisoire, dans les manœuvres d'automne du temps.
Un autre poème, le poème « Réclame », fait jouer ces deux voix, celle de l'inquiétude lucide et celle d'un capitalisme écervelé qui fait la réclame pour sa propre insouciance, pour son propre vide.
Mais où allons-nous ? Sans souci, soit sans souci. Quand tout s'obscurcit et que le froid s'installe, soit sans souci. Mais en musique, que devons-nous faire allègrement et en musique ? Et penser allègrement, en vue d'une fin, en musique, et où porter, au mieux, nos questions et l'horreur de toutes les années, à la laverie des rêves sans souci, soit sans souci. Mais que se passe-t-il, au mieux, lorsqu'un silence de mort fait irruption ?
Il y a, enfin, le temps en sursis, Die Gestunde der Zeit, qui donne aussi son nom à un recueil, qui reprend cette idée selon laquelle ce qui a été occulté, l'époque du nazisme, et n'a pas fait l'objet d'un travail de conscience collective, garde une présence et, d'une certaine manière, nous attend, se montre à l'horizon de notre temps présent, comme une dette en suspens. Le titre du poème, donc, Le temps en sursis, Die Gestunde der Zeit, ses premiers vers, m'apparaissent intraduisibles dans la brièveté du vers à laquelle je ne suis pas tenue, moi, puisqu'il est seulement question pour moi de les démêler et pas de les traduire. Donc le temps en sursis. Mais ce sursis peut être révoqué. Le sursis peut prendre fin. Le temps a été mis entre parenthèses, mis de côté. Nous en sommes épargnés comme d'une peine qui ne s'appliquera pas à nous. Un châtiment dont nous serions exonérés, mais non. C'est seulement un sursis. Et ce sursis est révocable. Et déjà, à l'horizon, on aperçoit ce qui nous attend. Et déjà, lorsque l'on en cherche la trace dans le brouillard, on aperçoit ce temps. Nous vivons juste dans le délai où la sentence est tombée, mais où la peine ne s'applique pas encore.
Des jours plus durs viennent. Le temps en sursis révocable devient visible à l'horizon. Tu devras bientôt lasser ta chaussure et renvoyer les chiens dans les fermes du littoral, car les entrailles des poissons ont refroidi dans le vent. La lumière des lupins brûle chichement. Ton regard trace dans le brouillard. Le temps en sursis révocable devient visible à l'horizon. Ta bien-aimée de l'autre côté s'enfonce dans le sable. Il monte autour de ses cheveux flottants, il lui coupe la parole, il lui enjoint de se taire, il la trouve mortelle et disposée à l'adieu après chaque étreinte. Ne regarde pas en arrière, lasse ta chaussure, renvoie les chiens, jette les poissons à la mer, éteins les lupins, des jours plus durs viennent.
Et dans ma version française du texte, je disais toujours « des jours plus durs sont à venir ». Ça a toujours été mon souvenir de ce premier vers, mais non, Françoise Rétif a raison. « Es kommen härtere Tage », ils viennent. Ce poème présente une structure spatiale très claire. Il y a ici qu'il faut quitter, il y a le mouvement du départ, les chiens que l'on renvoie, la chaussure que l'on lasse. Il y a l'horizon, qui représente aussi l'avenir, un horizon chargé, et menaçant. Et puis, il y a l'autre côté de l'horizon. La bien-aimée est de l'autre côté. Elle est séparée et elle est malmenée. De l'autre côté, il y a ce « il » qui arrive dans le poème sans qu'on sache qui c'est. Il y a ces phrases brèves. Il lui enjoint de se taire. Il lui coupe la parole. Il la réduit au silence. Puis on repasse de ce côté, ici, et c'est comme si la menace était plus proche maintenant, comme si les jours plus durs n'allaient pas tarder. Oui, ils viennent, il est temps de partir sans se retourner, temps de ne plus hésiter, temps de choisir le mouvement qui sauve. 12. On a sauté le 11. Pour celles qui suivent, pour ceux qui suivent. Donc, je vous lisais à Vienne à 20 ans. Et il me semblait, pour la première fois depuis plusieurs années, que la vie était légère et respirable à Vienne, à 20 ans. Et je lisais qu'il vous avait fallu partir et partir sans cesse, quitter Klagenfurt, quitter Vienne pour Berlin brièvement, puis pour Rome. Quitter le pays natal, quitter la langue natale, car seulement loin d'eux, la vie est possible. Mais qui s'éloigne, écrivaine, écrivain de sa langue, lorsque jour après jour, la vie de l'esprit continue de se jouer sur la scène de cette langue-là. Et que fait l'exil, même choisi, à celui, à celle qui en fait l'expérience? Il y a dans certains de vos poèmes, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve plus tard dans l'œuvre, puisque votre œuvre commence par la poésie, ces moments où le sujet lyrique, où le moi qui n'est pas vous, pas votre moi biographique, mais bien ce sujet, cette voix qui existe seulement dans votre œuvre. Donc il y a des moments où le moi se corrode, cherche ou trouve sa propre destruction. Des moments où il se perd à lui-même, mais où cette destruction détruit en fait ce qui avait été construit artificiellement par la société, par la famille, par l'Église, par le pays, par la langue. Donc ce qui se détruit, c'est un moi comme une coquille vide qui se dissout. Et c'est tout à la fois un drame, mais aussi, étrangement, une émancipation. C'est ce qu'on entend dans le poème « Exil ».
Je suis un mort qui chemine, enregistré nulle part, inconnu au royaume du préfet, en surnombre dans les villes dorées et les campagnes verdissantes. Écarté depuis longtemps et doté de rien, que de vent, de temps, de son. Moi qui ne peux vivre parmi les êtres humains, moi, avec la langue allemande, cette nuée autour de moi, que je tiens pour maison, dérive à travers toutes les langues. Oh, comme elle s'obscurcit, les tons de pluie les sombres, peu d'entre eux tombent. En des zones plus claires, plus haut, elle porte ensuite le mort.
La langue s'obscurcit et le mort se soulève. On note ici de nouveau le « je » avec le pronom. Le poème s'ouvre sur un jeu. Je suis un mort qui chemine. Puis une distance, une coupure s'opère. La dernière strophe l'évoque à la dernière personne. Le sujet a disparu. Le mort, lui, s'est soulevé, élevé, et quelque chose s'est dissous. La langue s'est obscurcie comme un ciel s'obscurcit et une pluie rare et sombre est tombée. Et c'est dans un ciel plus clair, comme allégé, que le mort s'élève. Comme si cette langue qui était sienne, ce nuage de langue, avait plu. Et la langue n'est plus la sienne. Elle est comme lavée d'elle-même, lavée de ce qu'il y avait en elle de sombre, de chargé. Le mort s'élève à présent. Il a cessé de dire « je ». Il a cessé de parler en son nom, le nom d'un exilé qui gardait marque de son histoire, de son pays, de son passé dans le Reich, dit l'allemand, dans l'empire des préfets, et délivré de ce passé comme la langue elle-même se délivrerait ou se purifierait, il s'élève. Cela paraît être une errance. Ein toter bin ich der wandelt, je suis un mort qui chemine. Cela paraît être un sort terrible, mais ici encore, il y a une force motrice. Il y a ce mouvement. Et il semblerait que ce soit une délivrance, cesser de dire « je », s'élever plus haut dans le ciel de la langue, dans un ciel sans nuages. 13. La langue, au moment où l'on écrit, est le seul corps, le seul organe. Elle est littéralement tout. Comme dans cette nouvelle du même titre, « Tout », où le père se refuse d'abord à nommer son bébé, puis lui donne ce nom étrange, qui n'en est pas un, « Phipps ». Car une fois nommé, une fois entré dans la langue, l'enfant quittera le champ des possibles, entrera dans celui des contraintes, de la détermination, entrera dans le champ du pouvoir qu'exerce sur nous la langue que nous parlons, langue qui charrie une histoire, une idéologie, une vision du monde qu'elle nous impose, à moins que nous ne fassions le seul travail qui ait du sens, aux yeux de Bachmann, le seul travail de pensée réellement essentiel, clarifier. Débusquer dans le langage les fausses logiques, les phrases qui pensent toutes seules, les causalités qui ne sont qu'en apparence évidentes, tous ces moments où nous avons l'impression de penser par nous-mêmes, mais où c'est la langue qui pense pour nous. Bachmann croit, avec le philosophe Wittgenstein, avec l'écrivain Robert Musil, que le langage philosophique est impropre à aborder les questions existentielles, les questions de la vie, qu'elle ne relève pas de la tâche du philosophe. Cette tâche, bien au contraire, c'est cette seule clarification, un travail de logique, montrer comment fonctionne la langue, mettre au jour ses mécanismes pour pouvoir, par la suite, en faire un usage plus juste, ne pas utiliser de phrases toutes faites, ne pas se payer de mots. 14. La poésie, pourtant, n'est pas le lieu où s'opère cette clarification, puisque c'est le travail de la philosophie. Elle est porteuse d'un autre enjeu, celui de l'utopie. Le travail de l'écriture est celui-ci, nous dit Bachmann. Je la cite de mémoire, donc sous réserve, mais quand même. Faire exister quelque chose, une chose pour laquelle le temps n'est pas encore venu. Ouvrir. L'horizon est chargé de menaces, nous l'avons vu. Le temps historique finira par se refermer sur nous, par nous prendre au piège, par nous faire revivre sous d'autres habits une autre guerre. Mais, dans l'espace et dans le temps du poème, on peut essayer, tenter quelque chose, tenter par exemple d'imaginer ou de penser ce que la langue, structurée sur des oppositions binaires, la vie, la mort, l'obscur, le clair, ici, là-bas, ne permettrait pas de penser ensemble. On peut essayer de dépasser ces oppositions. Il y a ici donc le désir de déjouer les oppositions dans l'un des plus beaux poèmes de cette œuvre. Dunkles zu sagen, dire l'obscur. Un poème dont on entendra seulement la première et la dernière strophe, construite en miroir et construite sur une homophonie qui n'existe que dans la langue allemande entre le mot Seite, corde, avec un A, comme la corde d'une lyre, et les questions d'Orphée, et le mot Seite, avec un E, et cette fois-ci, c'est plus la corde, c'est le côté. Donc voilà, la première et la dernière strophe de ce poème, Dunkles zu sagen.
Comme Orphée, je joue sur les cordes de la vie, la mort, et face à la beauté de la terre et de tes yeux qui administrent le ciel, je ne sais dire que de l'obscur. Mais comme Orphée, je sais, du côté de la mort, la vie, et pour moi, bleuie, ton œil a jamais fermé.
On s'arrête là, c'est trop beau. Merci. Non, c'est 14, non, c'est 14. Donc, toute la complexité de l'entreprise de Bachmann est là, je crois. Ce n'est pas ce que l'on appelle une poète conceptuelle, expérimentale. Sa poésie n'est pas formelle. On vient de l'entendre. Elle n'illustre aucune tentative formelle, mais elle est sous-tendue par une pensée philosophique. Et c'est bien l'entreprise poétique d'une philosophe qui a choisi d'investir le champ de la poésie avec ses possibles. Mais c'est aussi dans le même temps une poésie où circule une profusion d'images, de métaphores, de données biographiques, de figures mythiques. Je comprends ou crois comprendre pourquoi elle arrêtera d'écrire des poèmes, ou du moins d'en publier, pour investir le champ de la prose narrative, qui est un champ où les personnages permettent peut-être de travailler plus clairement les tensions et les situations, les oppositions et leurs dépassements. Parce que oui, elle s'arrêtera sur un dernier poème. Sur ce poème qui était pour moi le dernier poème du recueil, mais depuis 2000, donc ce temps lointain, où j'achevais ma maîtrise, les limites de l'œuvre ont changé, puisqu'on a republié les poèmes de jeunesse et qu'on a publié également ceux qu'elle a continué d'écrire durant toutes ces années, qui n'étaient pas destinés à la publication, mais qui furent publiés néanmoins et qui se trouvent dans l'anthologie de Françoise Rétif. Parce que, déjà en Allemagne, Bachmann est cette figure marquante, cette icône, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on la lise réellement, mais ce qui signifie qu'on l'identifie en librairie et qu'on a l'illusion de la connaître aussi, car sa biographie, sa personnalité ont fait l'objet de tant de commentaires, de spéculations, de révélations. Son visage a été photographié, exposé tout au cours de sa vie et après sa vie encore. Et on dit à Vienne, lorsqu'on parle d'elle, « la Bachmann », comme on parle d'une diva. 15. Cher Ingeborg, ce sont vos mots. Ils m'accompagnent. Faire exister quelque chose, une chose pour laquelle le temps n'est pas encore venu. Et aussi, je crois réellement en quelque chose. Et cette chose, je l'appelle « un jour viendra ». Et un jour, cela viendra vraiment, mais oui, vraisemblablement, cela ne viendra pas. Car, depuis toujours, on nous détruit ce jour à venir. On nous l'a toujours détruit, il ne viendra pas. Et malgré tout, je continue d'y croire. Car, si je ne parviens pas à y croire, je ne peux pas non plus écrire. Voilà pour l'utopie. Faire exister dans le poème quelque chose dont on sait que son avènement est impossible. Continuer à écrire pour le faire exister. Continuer à dire l'utopie de l'amour au-delà de toutes les violences, de tous les échecs de l'amour. Continuer à dire l'utopie d'une vie, d'un pays possible, réellement vivable, au-delà de toutes les pertes, les perditions. De cela, Ingeborg, je vous suis redevable et reconnaissante infiniment. De la manière que vous avez dans cet enregistrement que je découvre, de la manière que vous avez donc de faire suivre les trois propositions, un jour viendra, oui bien sûr, il ne viendra pas, mais je continue à y croire. Il y a un audio qui existe, on entend sa voix, que je n'avais jamais entendue, et c'est comme l'enchaînement se fait, c'est le mouvement que ça porte, c'est assez fou. 16. Vous avez continué d'y croire et d'écrire, mais après le poème qui s'intitule « Pas de délicatesse »,« Keine Delikatessen » que vous écrivez en 1963, vous ne publiez plus de poésie. C'est un poème dont la sobriété même donne envie de le lire presque sans voix. Un poème dont le premier vers tombe comme un couperet. « Plus rien ne me plaît ». L'avant-dernier poème, « Énigme », commence sur un vers presque jumeau. « Plus rien ne viendra ». Dans « Pas de délicatesse », j'entends une forme de dégoût pour l'écriture poétique, pour sa vanité, une méfiance profonde, un refus de participer, un refus de continuer à poursuivre cette forme de travail de la langue, non parce que l'on ne saurait pas faire, mais parce qu'on ne veut pas savoir faire. Les métaphores, les images sur lesquelles on se casse la tête, on se brise le crâne, les mots assemblés en grande pompe, comme pour un opéra, « Très peu pour moi », nous dit Bachmann désormais. Mais dans ce même poème, cette sortie un peu dramatique, un peu théâtrale du champ poétique, je lis surtout le désir d'aller ailleurs, de creuser une autre voie de travail. S'il est question d'en finir avec les délicatesses, les choses précieuses et compliquées, raffiner mes veines, il est question aussi des mots qui importent vraiment. J'ai appris à prendre en considération les mots qui sont là. Faim, infamie, larmes et ténèbres. Et puis, un peu plus loin, elle égrène les pronoms. Les opéras de mots ourdis détruisant ainsi je, tu et il, elle, ça, nous, vous. Et puis il y a ces deux derniers vers. Laisse, laisse donc, laisse faire les autres. Mein Teil, es soll verloren gehen. Ma part, qu'elle soit perdue, ça doit se perdre. 17. Elle ne s'est pas perdue, votre part. Elle est parvenue jusqu'à nous. Elle nous parvient encore. Ces échos, ces éclats, l'intensité d'une vie, d'un amour, les roses.
Où que nous allions, sous l'orage de roses, la nuit éclairée d'épines et le tonnerre du feuillage naguère si doux dans les buissons est désormais sur nos talons. Le poème s'intitule « L'orage de roses ». Et l'autre poème s'intitule « Ombre, rose, ombre ». Sous un ciel étranger, ombre, rose, ombre, sur une terre étrangère, entre rose et ombre, dans une eau étrangère, mon ombre.
18. Cher Ingeborg, je reviens vers vous, je reviens à votre force, à votre foi inébranlable, celle qui résonne dans tous les textes où vous parlez de littérature. Nous arrivons presque au terme de notre traversée et je réalise qu'il manque l'Italie. L'Italie s'y présente, ses îles, ses ruines, sa richesse et Rome. Il manque Rome, où vous avez vécu en écrivaine libre. Il manque Rome, mais j'y reviendrai une autre fois. Je préfère vous accompagner de nouveau, comme toujours, sur mon rivage préféré, le rivage de la Bohême. Mais avant cela, vous lire et citer encore ce discours prononcé à l'occasion de la remise du prix des aveugles de guerre. Ce discours qui est une manière de dire, de répéter encore votre foi en la littérature, en l'humanité, malgré toutes les raisons de désespérer. Et il semble que le désespoir vous ait été une humeur familière. Ainsi, avant de vous rejoindre en Bohême, ces quelques phrases. C'est dans la confrontation du possible et de l'impossible que nous élargissons le champ de nos possibilités, que nous engendrions cette tension au contact de laquelle nous grandissons, c'est cela l'important selon moi, que nous nous orientions vers un but qui certes s'éloigne à chaque fois que nous nous en approchons. De même que l'écrivain, par ses productions, tente d'encourager les autres à chercher la vérité, les autres l'encouragent quand, par leurs louanges ou leurs critiques, ils lui font comprendre qu'ils exigent de lui la vérité et veulent atteindre l'état où leurs yeux se dessillent. Ce discours, elle le prononce à l'occasion d'un prix décerné par les aveugles de guerre. On peut exiger de l'homme, en effet, qu'il affronte la vérité. Qui, sinon parmi vous, qu'un dur sort a frappé, qui pourrait mieux témoigner que notre force excède notre malheur, qu'après avoir beaucoup perdu, on peut se relever, qu'on peut vivre en étant désabusé, c'est-à-dire sans illusion. Je crois qu'il est permis à l'être humain d'accéder à une forme de fierté, la fierté de celui qui, prisonnier de l'obscurité du monde, ne se résigne pas et ne cesse de chercher à distinguer ce qui est juste. Donc c'est traduit de l'allemand par Françoise Rétif. 19. La Bohême au bord de la mer. Cette image vous vient d'une autre de mes autrices préférées, Shakespeare, et de son conte d'hiver. Est-ce auprès de ce conte que vous aurez puisé cette joie, cet élan? Ici, de nouveau, les inconciliables sont conciliés, les contraires se touchent et s'échangent. Ici, si un pays est quitté, perdu, cela permet seulement de retrouver ou de trouver le pays de son choix. Ici, rien n'est perdu, et celle qui dit « je » dit d'elle-même qu'elle est « non perdue »« unverloren ». Ici, même lorsqu'on veut toucher le fond, on trouve au fond quelque chose qui n'est pas la destruction de soi, mais un savoir. On touche le fond et au fond, on sait et on se réveille comme d'un rêve. On ressurgit et rien n'est perdu, rien ne vous perd. La Bohème est au bord de la mer. Elle est le lieu de l'utopie, de l'impossible, le seul pays possible qui n'est pas une patrie, mais le patrie des bohémiens, des vagabonds, de ceux qui errent, le seul pays possible, à savoir celui que l'on désire, celui que l'on choisit.
Si les maisons par ici sont vertes, je peux encore entrer dans une maison. Si les ponts ici sont intacts, je marche sur un bon fond. Si peine d'amour est à jamais perdue, je la perds ici de bon gré. Si ce n'est pas moi,
bin ich es nicht?
Si c'est quelqu'un qui vaut autant que moi,
ist es einer, der ist so
si
gut wie ich?
Un mot ici touche à mes frontières, je le laisse y toucher.
Hier ein Wort an mich?
Si la Bohème est encore
so
au bord de la mer, de nouveau, je crois aux mers. Si je crois
und
à la mer,
noch ans Meer,
alors j'ai espoir en la terre.
Auf Land.
Si c'est moi,
nicht.
C'est tout un chacun qui est autant
so
que moi. Je ne veux plus rien pour
ich
moi.
Will nicht mehr für mich.
Je veux toucher le fond.
Ich will zugrunde gehen.
Au fond,
zugrunde.
C'est-à-dire en la mer,
das heißt zum Meer.
Je retrouverai la Bohème.
Dort find ich
Bohème. Ayant
dort.
Touché le fond, je m'éveille paisiblement. Ressurgissant du fond, je sais maintenant et plus rien ne me perd.
Und ich bin unverloren.
Venez à moi,
kommt her.
Vous tous bohémiens,
ihr Böhmen alle,
navigateurs,
Seefahrer,
filles des ports et navires,
Hafen, Huren und Schiffe,
jamais ancrés. Ne voulez-vous pas être bohémiens, vous tous, illyriens, véronais et vénitiens, jouez ces comédies qui font rire et qui sont à pleurer, et trompez-vous sans foi, comme je me trompais. Et ne surmontez jamais les épreuves, et pourtant les ai surmontées, chaque fois de nouveau. Comme les surmonta la Bohème, et un beau jour, reçut la grâce d'aller à la mer, et maintenant se trouve au bord. Je touche encore aux frontières d'un mot et d'un autre pays. Je touche, fût-ce si peu, toujours plus à toutes les frontières. Un bohémien, un nomade qui n'a rien, que rien ne retient, n'ayant pour seul don, depuis la mer contestée, que de voir, pays de mon choix.
C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Zoé Picard. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerche et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole européenne de Lille et la Ville de Lille.